suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir pour cette émission Club de la presse. Lomé est arrosé par une pluie diluvienne ce matin. Vous avez sans doute compris que nous sommes dans une fraîcheur. Merci de nous recevoir pour ce quatrième numéro de l'émission Club de la presse pour le compte de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Victor Guetomega est à la mise en onde, Jérôme Bakouta est à la mise en ligne, je suis Pascal Lossou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Niro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la presse. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre via nos médias partenaires, notamment nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes aujourd'hui, alors jeudi est là, Ambroise Yao, bonjour, est là. Ambroise, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour, auditrices et auditeurs de Radio Canal FM, ceux qui sont à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je vais, comme il y a de coutume, avant de commencer, lancer cet appel à la NASA et à Ebomaf pour venir en aide à ceux qui sont dans la partie nord et sud des deux bassins qui ont été construits à Sébé. Parce que là, c'est le calvaire. J'imagine, en tant que aménagiste aussi, qu'on peut ériger des caniveaux jusque vers 5 km vers la partie sud, jusqu'à l'Ankoubi, et faire pratiquement la même chose pour converger, pour faire diriger l'eau vers une histoire propice, s'il le faut, parce qu'il peut y avoir une vallée quelque part, parce qu'on n'empêche jamais l'eau de circuler. Mais ce que ces gens-là vivent actuellement, il suffit d'aller sur le terrain, tu verras ce qui va. C'est-à-dire, si tu as un véhicule, tu ne passes pas, même la moto, ça ne passe pas. Jusqu'à plus de 4-5 km.
Elle voit un
au niveau des bassins. La dernière fois, si c'est qu'il y avait ces gens de plus ou moins deux fois, dans deux jours, dans trois jours, ceux qui sont du côté de Tsegué, à Kato, Kremé, personne ne peut passer. Il faut que Eboma fasse en sorte que les travaux soient vite faits et que le gouvernement débloque au moins 5 ou 10 milliards pour secourir ceux qui sont dans les zones inondables. Ce n'est pas seulement à Tsegué. Il y en a qui sont vers Attila Monou, le bassin qui a été créé par Eboma aussi là-bas, vers Correa. Il y en a qui sont à Zosimé, bon, pas Zosimé, au niveau d'Agalfedo. Il y en a, là où, partout où il y a le bassin, les gens sont en difficulté.
Les bassins devaient constituer une solution pour les inondations.
La solution, on avait déjà rejeté cette histoire des bassins. Parce qu'on a compris que les bassins sont plus un problème au lieu d'en être une solution. Le cas du site de Kling-Dolomé, c'est que ce bassin a créé là-bas en 10 longs. Et nous, on estime qu'il faut retourner aux buses, aux grands buses, dans les années, au temps colonial, jusqu'aux années de l'indépendance. C'est les buses qui partent du sous-sol jusqu'à la mer. Donc, il faut des caniveaux, il faut des buses et oublier les bassins. Parce que là, on risque de ne plus avoir de terre.
D'accord. Merci beaucoup,
Amoura. Et étudier par rapport à la nappe, le niveau de la nappe phréatique, pour pouvoir le construire. Je parle en petit connaisseur dans ce domaine.
D'accord.
Donc, je ne suis pas plus intelligent que les ingénieurs qui ont fait le travail, mais il va falloir sauver la vie en faisant les caniveaux dans ces quartiers pour sauver les meubles.
C'est un regard journalistique que vous avez sur ce fait de la société. Là, vous avez également, vous avez le droit quand même d'ailleurs de poser ce regard analytique alors sur ce fait. Nous commençons cette émission avec ce jeu capsule consommateur diamant de SNB. Et nous avons en studio avec nous Diri Katanga. Diri, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
J'espère que vous allez bien.
Alhamdulillah, je vais bien, merci.
C'est l'essentiel. Je rappelle que vous êtes responsable marketing opérationnel à la SNB. Alors, depuis quelques jours, sur toute l'étendue du territoire national, nous attendons parler du jeu capsule consommateur Diama. Dites-nous réellement ce que c'est le JCC.
La SNB a décidé donc de récompenser tous ses consommateurs, comme l'a fait donc l'année dernière, par un jeu, un méga jeu que nous baptisons jeu capsule Diama, qui est très simple à jouer, hein, juste pour les consommateurs de Diama. Quand vous vous retrouvez dedans, c'est un bonus que nous faisons à tous nos consommateurs. C'est juste pour leur dire merci.
Juste pour leur dire merci. Alors, et c'est quoi le principe du jeu?
Alors, le principe du jeu est très simple. Pour participer, il faut juste acheter une bouteille d'une des Diama, parce que nous avons 5 Diama, Diama Pilsner, Diama Ladja, Diama 208, Diama Panaché, ou Diama Stout Porter, que les gens appellent Diama Noir. Vous achetez une bouteille, tout simplement, vous décapsulez. Au niveau de la capsule, il y a une gomme. Vous enlevez la gomme de cette capsule-là, et puis vous découvrez le lot qui doit être un dessin. C'est-à-dire que ce soit un portable, un t-shirt, une bouteille, un frigidaire, un téléphone portable, je l'ai déjà dit, un téléviseur, des bons d'achat, ou même la voiture, qui est le super gros lot.
Mmh. Alors, voilà. S'il arrive que je découvre quelque chose comme ça, soit un t-shirt ou une moto ou je ne sais quoi, et après avoir décapsulé, qu'est-ce que je fais en tant que client?
Alors déjà, les petits lots qui sont donc la bouteille, le t-shirt ou le décapsuleur, nous avons les commerciaux qui sont dans toute la ville, dans toutes les villes qui sont dans tout le pays. Nous avons également des distributeurs qui sont dans tous les quartiers. Vous approchez un distributeur ou un commercial, il pourra vous donner donc le t-shirt ou le décapsuleur en même temps. Mais pour les bouteilles, quand vous découvrez cela dans une capsule et que vous êtes dans un bar, vous remettez tout simplement la capsule au bar parce que la capsule coûte 300 francs. C'est le prix du petit modèle de Diama, Diama Pilsner, Diama Ladja ou Diama 208. Vous remettez la capsule et puis on vous donne une petite bouteille à consommer sur place. Vous n'emportez pas la bouteille. Voilà. Maintenant, pour les lots comme le téléviseur, le téléphone portable, la bouteille de gaz et autres, là, vous êtes obligé d'appeler donc des numéros utiles, le 70 49 95 48 ou le 70 49 95 49 pour les modalités de retrait. Là, on s'arrange pour pouvoir vous remettre donc ce lot. Vous donnez donc votre lot au bout de 112 heures ou plus tard. Si vous êtes à l'intérieur du pays, vous appelez quand même ce numéro. Mais à part ça, comme je disais, il y a nos commerciaux, mais il y a également les distributeurs qui sont pas loin. Contactez-les et puis on va opérer donc à la remise du lot. Le super gros lot, c'est la même chose. Si vous retrouvez une voiture dans votre capsule, faites-nous signe tout simplement sur ces deux numéros-là et on va s'arranger pour vous faire donc cette remise dans une fête grandiose avec toute votre famille, toute votre communauté qui sera là pour célébrer donc les plus de la dizaine de millions qu'a coûté cette voiture. Et donc voilà, vous célébrez une fête. Voilà, nous sommes presque en période de fête et il faudra en profiter.
Et vous anticipez même d'ailleurs sur cette fête ou cette période de fête pour donner l'occasion quand même à vos clients de gagner ce gros lot qui constitue même d'ailleurs une voiture. Alors, absolument. Thierry, quand on parle alors de jeu chez vous, ce n'est pas la première fois que vous lancez un tel jeu.
Non.
Mais c'est quoi l'innovation pour cette fois-ci?
Alors, l'innovation pour cette fois-ci, vous savez, la première édition, c'était l'année dernière. Et pour cette année, nous avons comme innovation des bons d'achat. Des bons d'achat, des bons de consommation de produits Diama de 1000 francs, 2000 francs, 50 000 francs et 100 000 francs. Mais plus que ça, nous avons lancé depuis le 1er octobre dernier, nous avons diminué les prix sur la Diama 208 et la Diama Ladja qui était à 600 francs. Nous les avons ramenés à 500 francs pour pouvoir les aligner sur les autres Diama. Et donc vous avez 1000 francs, vous avez deux bouteilles tout simplement. De Diama 208, Diama Ladja, Diama Pilsner, Diama Panaché, vous pouvez retrouver donc toutes ces boissons-là à 500 francs dans tous les bars populaires qui se respectent bien sûr. Et voilà tout simplement. Mais je le dis en disant dans les bars populaires, dans les bars, n'allez pas me demander si on peut retrouver la Diama 208 à 500 francs à l'hôtel de février. Ça, ce ne sera pas possible.
Quand on parle des bars populaires.
Exactement, voilà. Les bars, voilà, c'est un peu ça.
Vous n'avez un constat, Thierry, ces derniers temps, c'est que les clients qui vont, ils consomment même d'ailleurs la bière, et votre bière, la bière Diama, et autres, ou tous les produits Diama. Mais après tout, le constat qui est fait, quand on décapsule, on retrouve des fois sous la gomme, l'eau, malt, houblon, qui figurent bien sûr sous les capsules, mais qui ne sont pas alors gagnante. Et concrètement, qu'est-ce que c'est?
Alors, l'eau, le malt, le houblon sont les ingrédients avec lesquels nous fabriquons nos bières, en général, et la jama en particulier. Nous, on n'utilise pas d'autres produits à part l'eau, le malt et le houblon. C'est ça qui fait donc la loi de la pureté des produits de la bière allemande. C'est l'eau, le malt et le houblon, rien de plus. On n'ajoute rien dans ça. Et c'est ce qui fait également que nos bières sont sans sucre ajouté et sont faites avec des matières premières naturelles. Vous voyez un peu. C'est tout ça, c'est pour éviter donc des maladies opportunistes, hein, parce que trop de sucre, forcément, ça nuit à la santé. Et puis, nous, on a choisi préserver la santé de la population, de nos consommateurs, en fabriquant nos bières avec l'eau, le malt, l'eau blanc. Alors, quand on retrouve cela dans les capsules, c'est une certaine pédagogie. C'est pour dire à nos consommateurs que c'est avec ça que nous fabriquons les diamants et rien d'autre. Maintenant, je dis souvent à ceux qui appellent que quand vous retrouvez une écriture, vous ne gagnez pas. Lisez. Allez, gardez cela en tête que nous, c'est l'eau, le malt et le houblon, préserver la santé, être en bonne santé, c'est ça notre leitmotiv. Mais quand vous trouvez un dessin, qui est donc une bouteille, un t-shirt, un décapsuleur, un téléviseur, une bouteille de gaz, un téléphone portable, la voiture, les bons d'achat, là, vous gagnez.
Tout simplement. Mais Jerry, le souci, c'est que... Alors, on retrouve finalement l'écriture, plus que même d'ailleurs des dessins. Est-ce que c'est fait sciemment?
C'est évident, hein. Vous savez, il y a un certain pourcentage de gains que nous mettons dans les capsules. Et n'oubliez pas que l'année dernière, on avait plus de 100 000 lots dans ces capsules-là. Cette année, on a doublé la mise et on a plus de 200 000 lots dans ces capsules. Ce qui veut dire qu'on a doublé le nombre de chances de gagner donc ces lots-là. Et aujourd'hui, nous comptons des dizaines et des centaines de lots de personnes qui nous appellent chaque jour pour nous signaler les gains qu'ils ont retrouvés au niveau des capsules.
Ce qui veut dire que depuis le 15 septembre que vous avez lancé ce jeu, il y a beaucoup de gens quand même qui ont gagné.
Il y a des milliers de gagnants déjà, et par rapport aux gros lots, les petits lots qui sont donc les t-shirts, les décapsuleurs et puis les petits modèles, ça c'est des dizaines et des centaines, pas tous les jours. Maintenant, c'est les gros lots où on est obligé de nous appeler et qu'on envoie là même. Je crois qu'on est en train de convoyer des lots au niveau de notre direction générale pour que ces lots-là puissent aller, parce qu'on nous a signalé pas plus tard qu'hier des lots gagnés à Ngochin, à Takpamé, à Timbu. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur la bretelle entre Dapan et puis Saint-Cassé. Il y a de ces gros lots-là. À Lomé même, il y a une grande maison en allant vers Ramco, une grande clôture dont je n'ai pas dit le nom, vous savez de quoi il s'agit. Il y a eu deux gros lots ce week-end et donc on va faire la remise justement aujourd'hui. Et voilà, tous les jours, dans tous les quartiers, partout dans le pays, il y a de ces gros lots qui sont gagnés et les gens se signalent et on se fait un plaisir de leur remettre donc ces lots-là.
Mais si c'est des petits lots qui sont gagnés à l'intérieur du pays, comment la procédure se fait pour qu'on arrive jusqu'à ce qu'on reçoive même d'ailleurs ce lot? Est-ce qu'on doit faire appel à la direction?
Non. Comme je le disais en prélude, c'est que quand c'est les petits lots, quand c'est les petits modèles, c'est dans le bar directement. Vous remettez la capsule et on vous donne le petit modèle que vous consommez. Si le bar, alors il y a de ces bars-là qui n'ont pas, ces petits bars, des gargotes on va dire, qui ne distribuent pas les petits modèles, vous ajoutez 200 francs, ça vous fait 500 francs et vous prenez un grand modèle. D'accord. Tout simplement. Maintenant, quand c'est un t-shirt et tout ça, comme je le disais, nous avons nos distributeurs, nous avons nos commerciaux qui sont à l'intérieur du pays aussi. Approchez-les et puis ils vont vous remettre donc ces lots-là. Tout simplement.
Diri, alors la fin du jeu, c'est quand déjà?
C'est le 31 décembre prochain.
Le 31 décembre prochain. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler encore l'objectif alors de ce jeu avant de terminer même de cet entretien?
L'objectif de ce jeu, c'est de remercier le consommateur. Vous savez, quand quelqu'un achète une boisson, c'est d'abord pour étancher sa soif, c'est pour avoir une certaine satiété. Et donc, gagner un lot, c'est un bonus. Voilà. Et donc, nous le faisons donc pour remercier tous les consommateurs de nos produits depuis 4 ans et quelques mois que nous existons. Il y a de ces centaines, de ces millions de personnes qui consomment nos produits. Et donc, c'est quelque part pour leur dire merci de cette confiance-là, de pouvoir consommer le sans sucre ajouté, les bières ou les produits naturels que nous faisons. Nous avons lancé donc ce jeu-là.
Et un message à l'endroit de vos clients?
Consommer, consommer. Nous, alors, il y a un point, il y a un astérisque que j'ai ajouté. C'est pas parce qu'on a lancé ce jeu-là qu'il faut organiser des beuveries. Non, pas du tout. Consommer à la hauteur de ce que vous pouvez consommer, mais tentez votre chance en consommant, en mettant l'accent sur les diamants. Je répète, on a 5 diamants. Diamant Laja, diamant 208, diamant Pissner, diamant Panaché et diamant noir ou diamant Stout Porter. Consommer, décapsuler. Surtout, n'oubliez pas, vérifier sous la capsule. Parce que pas plus tard qu'hier, on a retrouvé une capsule gagnante chez un enfant qui a rencontré dans nos commerciaux et qui leur a remis la capsule. Il dit, Fofovi, j'aimerais voir, est-ce que j'ai gagné quelque chose? Et cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé la capsule dans un bar. Ce qui veut dire que le consommateur n'a pas vérifié, la serveuse non plus n'a pas vérifié, et donc le consommateur, il a consommé sa bière comme d'habitude pour étancher sa soif, et il est parti. Alors, prenez la peine de vérifier si vous avez gagné ou pas. Si vous n'avez pas gagné, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de consommer. Maintenant, le bonus, c'est éventuellement de gagner un lot portant l'estampille Jama.
D'accord. Merci beaucoup, Derek Atanga, d'être passé dans cette émission.
Merci,
Pasteur. Je rappelle que vous êtes responsable marketing opérationnel à la SNB. Merci d'être passé, de nous avoir expliqué tout sur ce JCC. Alors, sans transition, nous recevons Monsieur Videgla et Kevin Costner. Monsieur Videgla, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Ça va très bien chez vous.
D'accord, ça va aussi par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, comme nous sommes déjà dans la question alors de promotion, on va s'intéresser aussi à la promotion. Vous, je vous rappelle que vous êtes consultant juridique et foncier, directeur de la société VIK Service et conseil office salle U. Et justement, nous allons parler des fonciers puisque vous êtes alors dans le domaine alors du foncier. Et vous avez des produits ces derniers temps pour dans votre société, bien justement, pour en quelque sorte amener les uns et les autres à bénéficier, même d'ailleurs, soit alors du titre foncier et à moindre coût.
Effectivement, effectivement. Nous avons lancé à l'occasion de notre 4e anniversaire des promotions à l'endroit de ceux qui nous suivent, à l'endroit de la population, en ce sens que, premièrement, pour ceux qui veulent acheter des terrains aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez les moyens, vous voulez acheter, il est conseillé de voir un conseiller ou bien de voir un spécialiste dans le domaine qui pourra vous aider, en fait, dans le processus d'achat. D'abord, parce qu'il faut, vérifier d'abord, est-ce que le terrain que vous achetez, le terrain n'est pas dans un litige? Est-ce que le terrain n'est pas déjà... On n'a pas encore fait un titre foncier sur le dit terrain. Est-ce que le terrain n'est pas dans une autre réquisition? Il y a des vérifications à faire avant de procéder à l'achat de votre terrain. Donc, nous proposons nos services de façon promotionnelle. Nous disons qu'à partir de 35 000 francs CFA, déjà, vous pouvez nous consulter. Là, nous, on va se déplacer sur votre terrain, aller vérifier, voir est-ce que votre terrain... On prend les mesures, bien sûr. On prend les coordonnées GPS. On ira vérifier au cadastre pour voir est-ce que le terrain n'est pas dans un titre. Faire les formalités préalables avant l'achat du dit terrain. Voilà, ça, c'est la première promotion que nous offrons.
D'accord.
Oui. Deuxièmement, pour ceux qui ont déjà les terrains, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait l'achat, on leur a certainement déjà fait le reçu de vente. Nous les aidons également pour l'élaboration de leur plan, c'est-à-dire le plan visé sur le terrain, communément appelé plan visé un tampon OTR. Et normalement, le coût, c'est à 120 000 francs. Mais pour nos 4 ans, nous réduisons considérablement le prix à 75 000 à partir de 75 000 francs, afin de permettre à tout un chacun qui ont des projets en ce sens de pouvoir élaborer leur plan visé.
Ah, mais c'est de 120 000 à 75 000.
Bien sûr.
Alors, je pense quand même que c'est en quelque sorte du gagné, ça.
Effectivement. Et pour permettre à la population de vraiment profiter de notre promotion, en fait. Parce que, n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui ont des terrains, mais parce que le coût est trop énorme, ils se disent, bon, demain, je le ferai, après-demain. Et finalement, ils se rendent qu'après, ils ont perdu tout, parce que les gens ont pris... quelqu'un d'autre est venu s'ériger en propriétaire sur le dit terrain. Donc, c'est pourquoi nous avons lancé cette promotion, afin de permettre à tout un chacun de vraiment profiter rapidement de cette offre-là.
Voilà. Et troisième offre?
Oui, la troisième offre, c'est par rapport à la création de titres, c'est-à-dire le gros lot. Voilà. Il y a certains qui ont déjà les plans, c'est-à-dire ils ont déjà acheté le terrain, ils ont fait le plan visé, et ils n'attendent que pour faire le titre foncier. Peut-être on leur a déjà fait des factures, 600 000, 700 000, en fonction de la valeur de leur terrain. Mais non, nous disons que si vous avez déjà le plan, le reçu et tous les documents préalables, venez nous voir. Si votre terrain a une valeur entre 0 et 4 millions, 0 et 4 millions aujourd'hui, avec 299 000 francs, on vous fait votre titre foncier, tous les frais sont compris. C'est-à-dire les frais d'acte notarié, les frais APA OTR, les frais du cadastre et nos honoraires. tout confondu, tout compris.
À 299 000 francs.
Francs CFA. Mais la condition est que le terrain doit avoir une valeur entre 0 et 4 millions. Maintenant, lorsque ça dépasse 4 millions, à chaque million qui s'ajouteront, 20 000 francs vont s'ajouter aux 299 000. Donc, je donne un exemple. Supposons que votre terrain, aujourd'hui, a une valeur de 7 millions. Donc, ça veut dire que vous allez juste déposer 299 000 plus 60 000 francs. C'est-à-dire 20 000 fois 3, parce qu'il y a 3 millions de supplémentaires.
Tout à fait.
Voilà, pour que nous vous livrons votre titre foncier. Le délai de
la promotion
le délai du travail.
Du travail, voilà, justement.
De la prestation, oui. Jusqu'à l'obtention d'une mode de réquisition de 3 mois, parce qu'il faut faire l'acte notarié, déposer à OTR. C'est tout un processus. Après, payer, déposer au cadastre, c'est tout un tas de formalités. En 3 mois, on le fait pour obtenir le numéro de réquisition. Et on suit le dossier. Et le suivi est sur 2 ans jusqu'à l'obtention de votre titre foncier. On ne vous prendra plus aucun coût. Tout est déjà payé lorsque vous versez la somme que j'ai donnée tout à l'heure.
Voilà. Non, mais c'est très intéressant ça, cette promotion que vous êtes en train de faire, ou du moins cette procédure que vous faites. Parce que quand il s'agit même de l'individu, d'habitude, il y a surtout des tracasseries à faire et cela perd aussi assez de temps. Voilà. Donc,
nous sommes une société, on a une équipe dynamique qui est là pour en fait aider. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ces formalités parce qu'il faut maîtriser des rouages, il faut aller ici, prendre du temps, etc. Donc nous avons une équipe qui nous aide et qui nous suit dans tout le processus. On a un cabinet de géomètres agréé avec lequel on travaille, qui s'occupe de tout ce qui est plan visé, vérification cadastrale. Et nous avons aussi notre société qui s'occupe de tout ce qui est le titre, les vérifications, les suivis de dossiers auprès du cadastre, etc. Parce qu'il est bien à savoir que même si vous déposez votre dossier de titre, le dossier peut être bloqué pour 5 ans. Vous n'allez pas savoir pourquoi le titre foncier ne sort si vous ne faites pas un suivi. Et puis, c'est pour ça que vous nous payez. Donc, nous, on a le droit, l'obligation et la responsabilité sociale de faire ce travail-là.
Voilà. Alors, ce qui concerne plus alors de casse-tête pour le Togolais quand il achète un terrain, c'est d'écouter par après même d'ailleurs que ce terrain est déjà revendu à une autre personne, où il y a ce phénomène de double vente, triple vente que nous connaissons. Alors, finalement, comment vous arrivez à régler cela?
Ah, c'est compliqué. C'est pourquoi nous avons initié ce projet, en ce sens que même avant d'acheter, nous, on vous aide à savoir si le terrain est déjà vendu ou pas. Parce que, tenez-vous bien, on va sur le terrain, poser des questions aux alentours également. C'est-à-dire, on se questionne auprès de ceux qui sont vos limitrophes, pour savoir à peu près à qui appartient ce terrain. On pose des questions. On vérifie les documents que le propriétaire vous a remis pour la vente. On vérifie auprès du cadastre, on fait toutes les vérifications possibles avant de vous conseiller d'acheter. Maintenant, si vous avez fini d'acheter, l'idéal pour éviter les doubles, triples ventes, etc., c'est de faire rapidement les papiers en premier. Et même si, au cas où c'est vendu, vous avez votre titre foncier, vous présentez devant un juge et c'est irrévocable. Voilà. Donc, c'est très important.
Voilà. Alors, si vous avez un message à l'endroit des populations, de ceux qui nous écoutent actuellement, à propos de cette promotion que vous faites, qu'est-ce que vous allez leur dire?
Je vais juste leur dire de saisir l'occasion, parce qu'il se peut que lorsque la promotion va finir, parce que la promotion finit le 31 octobre. Nous avons commencé en début
Ce 31 octobre, bien sûr.
Oui, ce 31 octobre. Voilà, nous avons commencé le début du mois, et c'est sur un mois, et nous finissons le 31 octobre. Donc, le conseil, c'est profitez-en. Et nous sommes prêts à également aider à vraiment, pour permettre à tout un chacun de jouir de cette promotion, en fait.
D'accord. Voilà. Et si on veut vous contacter, quels sont les numéros sur lesquels on peut vous contacter?
D'accord. Premièrement, le bureau même est situé à Topoin Djoumacissé, bon, communément appelé ADUI. Le campus universitaire a une grande entrée au niveau de ADUI. Donc, juste en face de l'entrée, il y a un immeuble étage en face de l'entrée. On a mis sur l'immeuble VIK. Voilà, donc c'est là-bas, c'est à l'étage que nous sommes. Donc vous pouvez venir à tout moment, à partir de 8h jusqu'à 18h, nous sommes là. Maintenant, pour le numéro de téléphone, c'est le 97 70 70 06. 97 70 70 06. Le WhatsApp, c'est le WhatsApp comme le téléphone.
Voilà. Le direct, voilà. Alors, monsieur Boudegla, merci d'être passé dans cette émission.
C'est un grand plaisir.
D'accord, merci. Je rappelle que vous êtes consultant juridique et foncier, directeur de la société VIK Services et conseil Office Salle U. Voilà. Merci d'être passé.
Merci, c'est un grand plaisir. D'accord. Bonne émission.
Merci beaucoup. Alors, nous sommes rejoints par notre confrère Elom Kossi Atissobé. Bonjour, Elom.
Bonjour, Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va, Dieu merci, ça va.
C'est l'essentiel. Avec la fraîcheur.
Oui, bon, vous savez, depuis quelques jours, il pleut sérieusement sur Lomé. Les gens n'ont pas fini de sortir les pieds dans l'eau maintenant, bon, avec les caprices de la nature. C'est vrai que c'est compliqué en octobre avec cette saison pluvieuse inattendue, même si c'est pas le temps qu'il doit faire normalement actuellement. Ça fait partie du changement climatique et il va falloir qu'on s'adapte et qu'on lutte sérieusement. Je parle sous le contrôle d'Ambroise Pondio, qui est spécialiste de l'environnement, pour qu'il puisse nous donner des pistes afin de lutter efficacement contre le changement climatique.
Je sais justement qu'il a beaucoup de pistes à nous donner pour que du moins nous arrivions à sortir de ce défi de changement climatique, n'est-ce pas, Ambroise?
Oui, merci à Haïlam qui vient de m'en censer. En fait, notre problème, c'est que le monde traverse une crise environnementale grave, au point que même les zones qui n'ont jamais été affectées par les eaux sont en train de l'être. Vous allez voir que ce n'est pas seulement le Togo. Les inondations ont fait près de 350 morts au Tchad. Au Mali, c'est toutes les communes du Mali qui ont été affectées. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Ghana. Le Togo, on peut s'en réjouir pour le moment parce que je crois qu'il doit y avoir encore deux grands pluies qui sont devant nous avant qu'on rentre dans la fin du mois de novembre.
Ah bon?
C'est, oui, puisque
c'est l'espoir.
Moi, j'aime la fraîcheur du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Je l'adore, j'aime l'armatan aussi, c'est personnel. Je n'aime pas la chaleur. Je ne vois même pas quelqu'un aimer la chaleur. Tu peux enlever ta chair. Tu es foutu, quoi. Vous voyez. En Égypte, les gens étaient à 51 degrés. Et il y a plus de 300 morts en Égypte. Il y a eu sur la 3 morts. Et vous allez vous rendre compte qu'au moins avec la fraîcheur, les gens qui sont en Russie, ils sont en Finlande, ils sont en Belgique, tu peux au moins avoir 4 manteaux. Mais lorsqu'il y a chaleur, 50 degrés, tu as beau enlever tout. Tu es foutu, quoi. Même si tu sautes dans une piscine, tu es dedans. Donc, on ne peut rien, c'est les actions humaines qui ont créé ce dégât, le réchauffement climatique dû à l'émiettement ou à la fragilité de la couche d'ozone, avec tout ce que l'Occident a créé comme problème, les usines et autres. Nous, on en récolte le prix alors que seulement 4%, l'Afrique contribue à la pollution de l'atmosphère, seulement 4%, et nous, on en perd aujourd'hui le prix. Vous allez voir que le pays, le Sénégal, le Togo, le Sénégal, la Gambie, tous ces pays qui sont au niveau de la côte, sont balayés par les vents froids du FIT. De la même manière, on va vous parler de la Floride, qui est du côté nord-est, c'est-à-dire vers nous, quoi, à côté de l'Atlantique, de l'autre côté, c'est du Pacifique plutôt. Vous allez voir, c'est les pays qui sont au bord de la mer, qui sont balayés par ces ouragans, ces trucs-là. Même s'il y a d'autres considérations métaphysiques, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je me dis ici, scientifiquement, qu'il y a un problème de changement climatique, qu'il y a un problème sérieux qu'il faut régler, même le fait même de quitter les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, je ne crois même pas, même si 100 ans, je ne crois pas que ça puisse régler un temps soit peu le problème. Parce que le premier pollueur, c'est la Chine. Et c'est le premier investisseur dans l'énergie renouvelable à 60%. Donc vous comprenez que le problème n'est. Il faut que nous changeons de comportement. Tous les hommes sur la planète. Tous les humains sur la planète. Changeons de comportement. Vous allez voir dans le quartier, les gens jettent des dépotoirs, des déchets.
Des ordures.
Sur la voie. La voie que la personne a même emprunte. Quand tu viens chez moi, dans mon quartier, dans certaines parties là-bas, c'est des tristesses, c'est des pousses-pousses là. Ceux qui ne sont pas des gens réguliers à la collecte des ordures, c'est eux, 23h minuit, ils viennent verser et ils partent. Et il reste dans l'eau, sur la voie que nous on emprunte. C'est pas l'homme sait de quoi je parle. C'est-à-dire que j'ai la chair de poule quand je vois ça. J'ai dit, Dieu, donne-moi le pouvoir de retrouver ce monsieur-là, la nuit là. On est obligé à un moment donné, nous-mêmes, dans le quartier, de s'organiser pour pouvoir ramasser pied dans l'eau. Un monsieur m'a raconté, mais c'est toi-même, c'est moi, le problème. C'est moi. Je suis dans l'eau, sans botte. On a ramassé les ordures dans la boue. C'est pas possible. Donc, pour dire que si nous-mêmes on change de comportement, on évite de construire dans les zones inondables, acheter souvent vos terrains en période sèche, c'est-à-dire qu'à partir de novembre, jusqu'en janvier. C'est vrai qu'on ne peut pas garder l'argent jusqu'à cette période-là. Mais ce qui est important, ouais, mon vieux a toujours dit, les médias, tu as fait là, et tu n'as jamais un meuble, un meuble, un meuble, un immeuble. Et quand tu veux construire, ne construis jamais sur le mur. Oublie les voleurs, mais construis jamais sur le mur. Tu peux pas être chez soi et être en prison. C'est pas ce que vous suivez. On ne peut pas être chez soi et être en prison. Vous allez voir ce que je l'ai toujours dit ici. Le bâtiment, c'est l'aération. Tu n'as pas l'aération, tu es foutu, quoi. Mais on ne peut pas vivre dans le Niger, ni au Tchad, même d'apprendre. Il faut toujours laisser 0, nous serons 0,50 tout autour de ta maison. Avoir deux fenêtres autour d'une chambre et une porte.
Avoir l'aération comme cela
se passe. Avoir l'aération. Même la dalle, si tu es sous la dalle ne va jamais s'effriter parce que l'air passe. Mais si tu enfermes tout, construit sur le mur, la chaleur même va faire lézarder la dalle et tu es foutu. Donc pour dire que on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. C'est-à-dire que c'est une question de probité, de conscience et c'est une question de comportement.
D'accord.
Ceux-là qui sont dans la vie, qui ont construit, quand tu prends le contournement, tu vas au port, actuellement, si tu vas là-bas, plein de maisons sont dans l'eau, dans le budget là-bas. Ils ont la vie, sauf qu'à partir du mois de novembre, décembre, janvier, février, mars. Et quand ça recommence, la muse commence par clôter. Donc, de grâce. Et ce n'est pas le gouvernement qui va faire ça. Le gouvernement peut venir nous aider à construire des choses. Mais nous-mêmes, on peut nous aider en s'organisant dans les quartiers. Il y a des gens, il y a certains dans le quartier, permets-moi de le dire, ils sont des inciviques. Et le pire, c'est que quand toi, tu veux le faire, il dit, quoi, mais ça, nous te voulons un méchant comme ça. Qui me permet de le dire, parce qu'on en vit tous les jours. J'ai rencontré une dame, elle a fait, comment on appelle ça? Elle a créé des embrasements, c'est-à-dire que du sable depuis sa porte, son portail de maison, jusqu'à 3 mètres sur la voie. Avec de gros pierres, personne ne peut passer là-bas. Ça veut dire qu'un titan ne peut pas passer, un camion de transport ne peut pas passer. Elle préserve son chien et oublie que c'est la voie publique. Ça, c'est dans la commune d'Offset.
D'accord.
Les changements climatiques sont une évidence. Faisons l'effort, que ce soit au niveau des citoyens, qu'au niveau des gouvernants, de sauver la mer.
D'accord. Et là, c'est vrai que avec ces pluies diluviennes, on a constaté que la ministre même d'ailleurs de l'eau, Madame Aziablé, était sur le terrain pour constater un certain nombre de dégâts que ces eaux ont provoqués et aussi surtout de l'inondation. Mais on se pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas des dispositions à prendre pour éviter même d'ailleurs que les inondations aient lieu avant qu'on ne visite même d'ailleurs ces sinistrés.
Oui, mais ça, je pense qu'on fait ce débat régulièrement sur ce plateau par rapport aux dispositions prises. On est plutôt dans l'action plutôt que la prévention. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on parle du même sujet. Entre-temps, la solution trouvée, c'était de construire des bassins de rétention d'eau et tout ça, alors que c'était quand même le problème additionnel. C'est-à-dire qu'on a créé d'autres problèmes aux problèmes que les gens avaient déjà. Les zones qui n'étaient pas inondées jadis sont maintenant inondées parce que les bassins sont débordés. Quand vous prenez la route d'Adidogomé, vous êtes au niveau de la douane. C'était une zone où, à l'époque, il n'y avait pas de bassin et il y avait quand même l'eau. Quand il pleuvait, les gens circulaient. Mais maintenant, avec le bassin, quand il pleut et qu'il y a débordement, on bloque la voie jusqu'au niveau de Sanol. Entre Sanol, Adidogomé et là-bas, pour venir jusqu'au supermarché Le Champion, c'est bloqué parce que les deux bassins sont débordés. Et les maisons sont inondées. Les gens se retrouvent sous l'eau. Les gens qui font de l'élevage, ils ont des poules, des volailles, des moutons et tout, qui meurent et c'est compliqué. Mais après, je l'ai dit sur ce plateau une fois, on a l'impression que quand les ministres sont remplacés, les ministres qui prennent fonction, ils viennent avec eux aussi leur cahier de charge ou leur plan. C'est pas normal. L'État est une continuité. Mais attendez, la dernière fois, quand la ministre Millet allait sur le terrain, elle a dit quoi? Qu'elle annonce un plan d'action. Mais qu'est-ce que les autres, ses prédécesseurs, n'ont pas annoncé? Oh, mais soyons sérieux. Mais quand ses prédécesseurs venaient sur le terrain, justement, pour constater les dégâts, est-ce qu'ils n'avaient pas annoncé un plan? Est-ce qu'ils n'avaient pas préparé un plan? Mais elle vient, elle dit qu'elle annonce un plan. Bon, ça voudrait dire qu'elle, c'est son plan. C'est le même problème qui s'est posé au niveau du ministère de l'eau quand il s'est agi des affaires de Pure Water, je ne sais pas vous rappeler, de l'eau pure en sachet. Mais chaque ministre venait avec son truc.
le ministre Bichoum Nabagou avait dit qu'il faut fermer les producteurs qui n'avaient pas l'agrément. Et le ministre qui a suivi a dit non, bon, entre-temps, bon, il faut avoir l'autorisation pour faire un forage. Le ministre est venu dire qu'il faut faire une table ronde sur l'eau. Mais finalement, c'est que chaque ministre vient et puis lance son truc. C'est pas normal.
Mais est-ce que là aussi, ça ne pose pas la question de la politique, surtout de l'eau, ou politique également, une vision même d'ailleurs pour le pays?
Le problème, c'est que Amboise l'a dit, on est tous citoyens d'une même nation. Le travail que l'autre a fait avant que je ne vienne, il y a du bon dedans. On ne peut pas tout rejeter. Mais c'est ce qui se fait ici. Mais actuellement, les bassins sont débordés. Il y a de nouveaux ministres qui sont là, à des portefeuilles. Mais on reprend les mêmes et puis on recommence. C'est-à-dire, on descend sur le terrain. C'est le même procédé. Hein. C'est comme un schéma qui est tout tracé. On vient sur le terrain, on regarde, on dit, on compatit un peu, on regarde, on dit, bon, on va annoncer un plan d'action. Mais les autres qui avaient fait ça par le passé, ils sont venus, ils étaient venus sur le terrain, ils ont rencontré les populations, ils ont dit que le gouvernement, voilà, on a assisté, donc on a le discours traditionnel. Et après, la MPC est débordée aujourd'hui. L'Agence nationale de protection civile est débordée. Quand vous appelez le numéro vert en question, mais ils viennent, ils vous assistent, mais ils ne peuvent pas faire de là de ce qu'ils peuvent faire. Et aujourd'hui, c'est au gouvernement de dire, bon, à partir d'aujourd'hui, on prend des dispositions. Trois ministères doivent s'asseoir. Le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, le ministère de l'environnement et des ressources forestières et le ministère de la protection civile. Des travaux publics aussi, parce qu'il y a des problèmes d'assainissement. Vous asseyez, vous dites que, bon, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On ne vend plus de terrain. Le terrain appartient aux collectivités au Togo, ce n'est pas à l'État. Mais vous faites des réunions, vous dites qu'on ne vend plus de terrain dans des zones inondables. Et donc, aujourd'hui, pour qu'un citoyen puisse acheter un terrain, on ne va pas lui dire d'aller ici, mais il faut sensibiliser la population pour qu'elle ne puisse plus acheter des terrains dans des zones inondables. Parce que le problème du Togo, ce qui est normal quand il a un peu d'argent, c'est de construire sur un petit lopin, parce que vous savez, le loyer est cher aujourd'hui. Donc, construire sur un petit lopin, mais encore que le lopin soit sécurisé. Sécurisé par rapport aux fonctions, on vient d'en parler, sécurisé par rapport aussi aux conditions naturelles. Et pour que, voilà, ils ne soient pas sinistrés. Et la dernière fois, il y a une scène là, au niveau de sur la route de Ségouen, non loin d'Amboise, les deux bassins qui se font face. Le gars, il pleuvait, il prend sa voiture, ramasse ses effets personnels dedans, il vient garer la voiture au bord de la route. Et il retourne à la maison. On l'a vu. Il ramasse ses effets personnels. Ce qui est important, les documents, tout ce qui est les vêtements, bon, tout ce qu'il peut mettre pour aller au boulot le lendemain, il vient garer la voiture au bord de la route. Là où on pensait qu'il y a moyen, il ne peut pas avoir d'inondation. Et il est rentré chez lui. Non, ça voudra dire ce que ça voudra dire. Ouais, et puis quand par exemple, les autorités descendent sur le terrain et voient ce genre de choses, mais quand il n'y a pas de plan d'action, c'est vrai que le Togo n'est pas le seul pays touché par les inondations. La Niger, qui a perdu beaucoup de ressortissants récemment, il y a le Tchad, qui a perdu aussi des centaines de...
Et même
de
la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire qui est touchée. Mais au niveau du Togo, il faut véritablement qu'à part le changement climatique, on puisse prendre des mesures préventives. Et on ne va pas rester tout le temps dans l'action, dans la compassion et dans l'annonce de plans d'action qui ne viennent jamais, il faut le dire. Parce que jusqu'à présent, là où on parle, est-ce qu'on n'a jamais vu un plan d'action ou un plan de prévention des inondations? On n'a jamais rien vu. C'est la NPC qu'on appelle tout le temps. On dit, bon, NPC, on est sinistré, venez. Le ministère de la Protection civile sera communiqué. On alerte les gens. Et puis c'est fini. Mais jusqu'à présent, quel est le plan d'action véritable de prévention? Alors qu'on a toutes les institutions, on a la NPC, on a les quatre ministères que je viens de citer, on a des ressources humaines de qualité, on a le cadastre qui est là, qui peut vous identifier clairement les zones inondables, on a quel service encore, mais on a toutes les ressources. Mais on est là chaque fois à s'asseoir, à dire que bon, il y a l'eau, voilà, une année même vous rappelez, il n'y a plus jusqu'à ce qu'on puisse reporter la rentrée. Ce n'est pas des choses qui sont souhaitables. Donc il faut plus de mesures préventives. Et moins d'annonces, quoi. C'est-à-dire, chaque ministre qui vient, qui dit, bon, okay, on va annoncer ceci. Bon, il vient, il dit, bon, on descend sur le terrain, le lendemain, on dit, bon, il y a ceci. Mais les autres qui avaient fait ça par le passé, quel est le résultat? Donc, voyez aussi ce que les autres ont fait de bien et inscrivez-vous dans le schéma qui a été tracé, puisque l'État est une continuité, pour que la population soit véritablement satisfaite.
D'accord. Okay, mais en bref, ma question, est-ce que ce que Elom vient d'évoquer concernant le fait que, déjà pratiquement, quand chaque ministre vient, il fait sa part et il quitte, et il arrive même d'ailleurs qu'on remette en cause même d'ailleurs ce qui a été fait par le prédécesseur. Alors, est-ce que ça ne pose pas une question de vision? Et avec cette vision, pourra même d'ailleurs, s'il y a une vision bien tracée, il y a ce plan, un schéma bien tracé, chacun vient et fait sa part pour aller vers l'objectif escompté.
Oui, crois que tu as tout soulevé, hein, parce qu'il y a une question de vision, de planification, une question de compétences aussi. Ce ne sont pas les compétences qui manquent chez nous au Togo. La dernière fois, j'étais sur un média, je disais qu'il faut un grand plan d'assainissement du Grand Lomé. Quand on parle de plan d'assainissement du Grand Lomé, ça implique beaucoup de gens. Ça implique urbanistes, ça implique architectes, ça implique paysagistes.
Les maires.
Ça implique... Oui, ça, c'est du côté institutionnel. Je vais en venir. Ça implique des spécialistes, des journalistes spécialistes. Et ça implique aussi des maires, comme il a dit, des chefs cantons, des chefs du village. Mais les spécialistes d'abord au devant. Parce que on n'est pas censé tout connaître, même quand on est spécialiste. Tu as beau être spécialiste, tu as beau être ingénieur en urbanisme, tout ça. Même un enfant de 12 ans peut dire quelque chose qui peut chambouler, c'est-à-dire que changer la vie de tout un truc. Ça se passe en Israël tous les jours. Est-ce que je passe au contrôle de l'homme? Ça se passe en Israël.
Je ne suis pas israélien.
Mais tu as quand même lu le rêve d'un Tébé.
C'est
juste ce que je voulais dire. Un enfant de 12 ans peut avoir aussi un plan. Pour dire qu'en réalité, nous n'avons pas de grand problème. Ce qu'il dit de fondamental, c'est qu'il n'y a pas la continuité. On ne sent pas qu'il y a une continuité.
Effectivement.
Dans le travail des départements ministériels. Mais quand la personne vient, déjà il cherche même à détruire le carreau du bureau dans lequel son prédécesseur est en train de vider. Tu penses qu'il va vouloir...
Changer les rideaux.
Justement, changer les rideaux.
Et les chaises.
Tu penses qu'il va vouloir faire les idées qui sont là. Alors qui est le secrétaire général? Le mémoire, ou plutôt pas le mémoire, la mémoire plutôt, du département ministériel sur le secrétaire général. Le directeur du cabinet, c'est les postes politiques, l'attaché du cabinet, tout ça là. Mais le secrétaire général, lui, il est permanent. C'est lui qui détient l'essentialité du plan de fonctionnement du département ministériel. Tout ce qui a été fait, tout ce qui reste à faire, la projection dans le temps, c'est le secrétaire général. Mais si chaque ministère a un secrétaire général, le problème doit se poser. D'accord. On peut être un ministre, on peut venir avec d'autres réflexions. C'est une bonne chose. On parle de la loi, la loi Pascal, la loi Pasqua en France. Ça veut dire que c'est des lois qui se rattachent à des hommes qui ont innové. Et l'innovation là est souvent identitaire. Tu trouves que ça, c'est un module à part. C'est-à-dire qu'il n'avait pas ça à part le passé. Mais ça ne vient pas chambouler ce qui est déjà fait. Je me dis, le royaume du Nayaro, peut-être qu'il y a un point de construction que l'ancien a déjà fait. Lui, il greffe ce qu'il a de nouveau sur ce qui a déjà fait. C'est ça qui fait marcher un département ministériel. Je n'ai jamais été ministre. Je n'ai jamais été peut-être un peu spécialiste de tout ça là, dans la gouvernance locale ou gouvernance de façon générale. Mais je dis que en tant que comment on appelle ça, spécialiste de la gouvernance de la question administrative, je me dis qu'il y a un sérieux problème. Parce que quand le chef de l'État, qui n'est pas spécialiste de tout ça, et qui nomme des ministres, forcément qu'ils ne sont pas spécialistes, parce que c'est des gens politiques, mais il y a des chargés de mission dans chaque département ministériel qui sont des spécialistes. Il y a le secrétaire général. Il y a aussi d'autres compétences, des juristes, des conseillers qui sont dans les dossiers. Il faut revenir à ce point d'assainissement-là. Ça doit inclure beaucoup de choses qu'on avait déjà dit ici. J'ai toujours dit que Lomé est situé, l'ancienne Lomé, l'ancienne ville de Lomé, est une cuvette à Bangadjagwa. Cette cuvette-là se retrouve entre la mer, qui aujourd'hui est un peu plus élevée que la ville. Hein? C'était un peu bas, maintenant c'est un peu plus élevé. Maintenant, les deux, la grille de Nekonako et de Bé, qui l'encadre, ça c'est l'ancienne ville. Maintenant, la nouvelle ville qui s'est greffée, c'est Okotame, à partir de au niveau de l'hôpital Toko, c'est comme Olympio, jusque monter à Casablanca, à Klikame, jusque à ce niveau-là. Ça, c'est un peu des élévations qu'on a. Maintenant, il y a des nouveaux quartiers. À Dido Gomé, jusqu'à Sébé, ça c'est la périphérie. Il y a Bagida, il y a la zone d'Agida, vous avez remarqué que...
Il y a aujourd'hui Adetikopé.
C'est
saturé maintenant, Adetikopé.
C'est aussi le vide du Sion, un peu.
Oui.
Et quand vous allez vers Bagida, on peut déjà le puits, la nappe phréatique, est à combien de mètres? À 2 mètres, à 1,50 mètre. On peut ici. Vous allez à Bagida, c'est la même chose. Mais vous montez un peu vers nous, à CD, là, on est à 30 mètres. Mais la nappe phréatique. Mais bizarrement, comme les deux bassins, au niveau des deux bassins, la nappe n'est pas aussi profonde. La nappe est à peu près à 10. À 10, ouais. À 10, oui. À 10, 8, 10. Ça veut dire que là-bas, c'est déjà une zone un peu inondable. Et peut-être, je ne sais pas si c'est le mauvais choix de faire la nappe dans un milieu déjà inondable. Parce que si la zone est inondable, la nappe n'est pas toujours loin. Je ne suis pas, sur le contrôle des spécialistes. Quand vous allez voir le site technique, moi, le vieux qui me corrigeait, le vieux qui corrigeait mes tests au niveau du journal avant de quitter le mai, ce vieux-là, il était lui qui était proche du grand trou là, où il y avait des arbres là.
Oui.
Toutes les eaux se convergeaient là. Mais ça, c'est quand le ministre Sessegnon, avec son entourage, ont créé du cinéma au niveau du lycée technique, avec ses logements sociaux que j'appelle des cabanes de réfugiés, c'est quand ils ont convergé les eaux, toutes les eaux, vers ce trou-là, et que le bassin a été créé, c'est là la pluie du 25 mai.
Oui, du 25 mai, oui.
Toutes les maisons qui n'ont jamais eu de plus de 40 ans ont commencé par avoir des problèmes. Quand vous allez à Vatame, vous allez pleurer. Moi, j'ai des amis qui ont construit leur propre maison, qui aujourd'hui sont dans la location,
oui,
dans la même zone.
Surtout à Vatame, aujourd'hui, c'est...
Et donc, nous ne parlons pas pour parler. Nous parlons en guise de connaissance. Nous savons de quoi nous parlons. Et il suffit de prendre un peu l'hélicoptère pour sillonner le mai, pour retrouver les poches de résistance. Parce que, je dis bien, on n'empêche jamais l'eau de circuler.
Justement. D'accord. Mais Elom, de façon générale, pour le Togo, on a connu quand même Togo Vision 2030. Et même, il y a d'autres plans également de développement qui ont été mis en place. Mais finalement, qu'est-ce qui ne marche pas?
Bon, disons que ça marche. Maintenant, il faut trouver la bonne formule. C'est vrai, il y a beaucoup de plans. DSRP 1, DSRP 2, SCAP.
Oui.
Ensuite, en Togo Vision 2030.
PND.
Ensuite, on a passé au PND, on a quitté le PND, on est maintenant dans la feuille de route gouvernementale 2025, je crois. Et aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de la continuité de l'État, aujourd'hui, est-ce que vous entendez encore parler de cette affaire de forage qui on doit prendre l'autorisation? En fait, c'est ça. Aujourd'hui, ce n'est plus une priorité. C'est-à-dire que, bon, le ministre qui parlait de ça, il n'est plus au poste, et puis bon, c'est fini. Bon, aujourd'hui, les gens construisent, les gens continuent de construire, les gens font des forages. Qui prend l'autorisation? Le successeur du ministre qui avait pris l'arrêté à l'époque, depuis qu'il les a fait, vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de continuité de l'État. Ce n'est pas normal. Quand les ministres prennent fonction, c'est vrai qu'ils ont un cahier de charges. Mais il faut voir, mon prédécesseur, il avait fait le travail jusqu'à quel niveau? Qu'est-ce qu'il avait fait justement? Quelles sont les priorités? Par où je peux commencer? C'est ça! Mais aujourd'hui, bon, les gens viennent, ils prennent des postes et puis bon, ils sont là. Et chacun vient avec ses idées. Je commence par ici, je commence par là. Et puis, après les séances de prise de contact, on n'est pas ministre. On n'a pas fait, moi, je n'ai pas fait l'ENA, par exemple. On a fait d'autres filières, d'autres études. Mais on voit ce qui se passe aussi dans les autres pays sur le plan administratif. Mais quand vous venez, quand il y a un problème, par exemple, vous vous asseyez, vous réglez le problème. Et puis après, vous voyez ce que vous pouvez faire. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a le siège de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Moi, j'ai toujours dit que cette école est sous-exploitée par le Togo. Je suis désolé. Les compétences qui sortent de cette école, pour les maires d'abord. Regardez aujourd'hui dans la capitale, un problème de cimetière. Tous les cimetières sont pleins. Le week-end, maintenant, le seul cimetière qui existe, c'est là, c'est à Sabado, là-bas. Ça fait que le samedi matin...
Il y a quoi plutôt?
Le samedi matin, entre 9h et 11h, n'empruntez pas cette route-là. Parce que les gens ne font que circuler parce que les gens ont leurs proches qu'ils enterrent. Mais c'est le seul cimetière opérationnel. Golf Air a fermé son cimetière depuis longtemps, vous savez. Mais aujourd'hui, on a un problème. Les cimetières seront où? Aucune réflexion ne se mène dessus. On a l'école africaine des métiers d'architecture de l'urbanisme. Les étudiants sont là. Ils ne demandent qu'à être sollicités. Ah, les maires sont là. Mais ça, c'est un problème des mairies. Les maires doivent justement faire des plans. Quand on parle d'assainissement, on parle d'inondation, on parle de ceci. Est-ce qu'on a sollicité les hameaux, l'expertise des étudiants de l'EAMO, ou bien ce n'est pas de la matière qu'on produit. Il y a des mémoires, il y a des ouvrages. Les gens font des soutenances de mémoire. Les gens font des thèses.
Ils ont la compétence pour ça.
Mais après, comment est-ce qu'on exploite ces documents? C'est ce qui met. Des fois, ça nous étonne, ça nous écœure. Mais les gens font de l'expertise, ils font des recherches, ils font des thèses, ils déposent. On a l'impression que les soutenances ne durent que le temps où on se rassemble. Mmh. Après, on dépose, je ne sais pas même s'ils ont des bibliothèques, on dépose, les gens viennent exploiter. Mmh. Et c'est fini. Mmh.
D'accord, on va quitter le sujet, chers confrères. Moi, intéressons-nous à ce sujet que vous évoquez à la une de votre journal des Guadiens ce matin. Vous écrivez des décrets sur l'exploitation du transport public au Togo. Conducteurs de taxi, tricycles et motos désormais soumis à l'obtention d'une licence et d'une autorisation de transport. C'est bien ça?
Oui, il y a ce décret 2023 qui vient conforter une loi de 2022 qui est déjà parlait des régulations du secteur du transport public. On parle des taxis, des taxis motos, des tricycles et connexes. Connexes, là, c'est les petites voitures à trois indiens là qui sont là, qui sont un peu plus confortables, les gens. Vous savez, moi, si on demande mon avis sur la circulation, je ne suis pas le seul, hein, on a déjà fait des débats ailleurs, et tous les confrères, on était unanimes de mettre un terme à cette histoire de tricycle-là. En tout cas, sur la chaussée, sur les principales voies de Lomé. Certains ont dit qu'il faut les circoncis, Bagida, Zanga, qui ne rentre même pas dans la ville de Lomé. Vous savez ce qui se passe? Hier, moi, je quittais le bouclage. J'allais à la maison. Au niveau de CB, la Samaritaine, et l'on me connaît bien là-bas, il y a une station d'essence. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Tout le monde connaît là-bas. Pascal connaît là-bas.
Je te dis, hier j'ai été ahuri.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Lui vient de CB. Je n'ai vu que l'accident. Mais quand tu descends, tu comprends qui a fait l'erreur. Il n'est pas encore arrivé à la jonction où il va aller au niveau de la station. Il veut bifurquer en même temps, alors que le 4 a déjà dépassé la station.
Et souvent, c'est à vive allure.
Lui, il est venu cogner, carrément. Il s'est même retourné, il a dit, crève ça. Il a dit, je vous dis que moi, j'ai une cousine qui a perdu son papa parce que Atinga Gomé. Ça fait à peine 8 mois. Le tricycle a cogné, il est monté au cou, il était sur moto. Un cas que j'ai vu aussi à Ave Maria. Il dit que, hein, monsieur le ministre, arrêtez cette histoire de tricycle. Mais je ne peux pas être ministre de l'Intérieur. Je ne peux pas. Ça veut dire que, je le dis en tout, parce que c'est des gens. On était ensemble. Il y avait les Charles, Barim, les Jacques d'accord. On était d'accord qu'on les élague, on les mette hors de l'homme. Maintenant, je remercie le ministère des Transports et des ferroviaires. Je remercie le ministère de la Sécurité, ceux qui ont fait ce décret-là. Il y a 6 ministères, je crois.
Oui.
Je suis très content. Parce que j'avais même réclamé ce décret-là. C'est le 20 octobre, ça doit être en vigueur. Moi, j'ai voulu anticiper, annoncer les couleurs. Quand les gens ont vu ça, les confrères ont vu ça, les gens sont contents. Parce que tout le dégât avec cette ici. D'abord, ils prennent le tramadol, ça, ce n'est pas mon problème, c'est leur corps. Mais le problème, c'est qu'ils considèrent que c'est le fer. Le tissique même est en fer. Donc, il faut surtout avec les deux côtés là. La nuit, le pire, sur la voie de CD, il n'y a pas de lumière, ils n'ont pas de phare. Ils n'ont pas de phare. Et donc, on vous dit désormais, vous allez prendre, qu'est-ce qu'on on a dit, le permis. D'abord, moi je recommande dans le permis B, en dehors du permis A, et une autorisation au niveau de l'entité territoriale. Oui. Et il y a encore d'autres choses. Ça veut dire que, avant même, comme toi-même, tu ne réfléchis, tu quittes sa chambre pour réfléchir que tu veux conduire tes cycles-là. Tu as tout un tas de dossiers. Oui. Moi, je suis très content.
Non, mais ce qu'Ambroise dit, c'est important parce qu'en matière de transport, aujourd'hui, avec les accidents de circulation, mais il faut veiller à l'application de ce document, de ce décret. C'est très important parce qu'on a beaucoup de documents officiels qui ne sont pas respectés. Il faut quand même aller vers le respect de cette procédure parce qu'il y a trop de dégâts. Vous avez des tricycles qui transportent des conteneurs. Vous avez vu ça où? Des conteneurs dans un tricycle. Un conteneur entier dans un tricycle. Moi, j'ai vu ça assez bien, je n'en reverrai pas. Un conteneur dans un tricycle. Et pour ne pas se faire arrêter, il n'a pas pu la grande voie, il est passé par les conteneurs bizarres pour arriver là où il doit. Mais ce n'est pas normal. Mais vous voyez un conteneur dans un tricycle. Mais franchement, à un moment donné, on a l'impression que ceux qui conduisent même les tricycles, ils pensent que bon, leur truc là, leur moyen de transport, ça ramasse tout. Vous avez des tricycles, des conducteurs de tricycles qui mettent quoi? Du fer à béton. Et ils mettent quand même une quantité importante de parler d'eau pour équilibrer d'abord l'engin, pour équilibrer l'engin. Et ensuite, ils sont devant vous. Et ils sont deux, il y en a un qui est le pilote, enfin le conducteur, et l'autre qui est assis à côté sans casque. Et puis bon, ils causent tranquillement, ils sont sur la voie, ils roulent, et ils s'en foutent. À un moment donné, s'ils veulent bifurquer, ils veulent quitter un peu le goudron, vous allez voir que bon, si le tricycle ne fait pas une chute, ils vont se retrouver sur le côté. Même chose avec les planches de bois. Vous allez voir des gens qui ont des planches de bois, c'est pas normal ça. Mais attendez, mais les taxis bagages sont faits pour quoi? Mais vous allez voir, et puis c'est la faute aussi. À ceux qui prennent des tricycles pour convoyer de la peinture, mais vous allez voir des gens bagages aujourd'hui qui achètent beaucoup de marchandises, par exemple à Civito ici à côté, et qui convoient ça avec un tricycle parce que c'est moins cher. Mais c'est pas normal. Et arrivé au niveau de la Pampa, peut-être pour prendre la voie de la Pampa, le gars il descend un peu du goudron et puis il fait 2-3 secousses et puis toute la marchandise est à terre. Entre vous et lui, qui a perdu le plus? Lui n'a rien perdu, hein. Mais c'est vous. Les planches de bois où vous voyez le tricycle renversé totalement avec son conducteur. Mais c'est quoi cette histoire? Il faut qu'à un moment donné, les gens même se disciplinent. Ce n'est pas seulement l'autorité qui doit faire la police derrière les gens. Même les policiers qui régulent la circulation, les gens de la DS, ils sont débordés. Parce qu'il y a trop d'indiscipline quoi, en matière de sécurité routière. Les gens ne sont pas soucieux de leur vie.
Ils sont là pour civils, hein, pour que du moins les gens
c'est Michel qui a l'habitude de dire que personne ne circule, hein, personne ne quitte la maison le matin avec la photocopie de sa vie en main. Tous là. C'est moi ça. Il n'y a pas mon second quelque part à la maison. C'est moi. D'accord? Donc quand les gens prennent leur tricycle, qu'ils sachent que c'est la vie humaine d'abord. Il y a eux et ensuite il y a les autres. Parce qu'il ne faut pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a la rentrée, les enfants sortent un peu partout et tout. Mais c'est même la dernière fois ici, je pense qu'il y a 3-4 mois, on a vu un conducteur de tricycle avec un conteneur, qui a pris un conteneur, même ici. Et c'est notre ami qui fait la prévention routière.
Gabriel était pas.
Voilà, mais c'est lui qui a appelé les agents de la DS pour qu'on l'arrête. Et le conducteur est venu ici pour le gronder, pour dire que mais pourquoi lui demande qu'on l'arrête? Mais comment tu peux transporter un conteneur dans un tricycle à midi?
Franchement. Et effectivement, moi je salue le travail des responsables de la DSR, de ceux qui sont. C'est vrai qu'on peut leur reprocher, certains leur reprochent des choses, mais je suis vraiment désolé. Les tricycles, hier par exemple, quand je parlais, c'est sur la même voie, hein, là où l'accident s'est produit, il y a un autre tricycle qui roule à 20 mètres à l'heure. Et il est devant au moins 7 véhicules. Tu sais ce qu'il fait? Il s'en fout, les gens sifflent, il s'en fout. Et il regarde derrière, il rit. Surtout le second qui a ici, lui rit. Ça veut dire que maintenant, on siffle pour qu'il bifurque un peu à droite, pour que les gens puissent passer. Il est là.
Il est en public.
Donc, celui qui l'a dépassé lui dit, ah mais non, c'est-à-dire que je voudrais que le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire, le ministre de l'Intérieur, quand il va circuler là, il verra beaucoup de choses. C'est pour juste dire que les agents de la DSR aussi, ils sont aussi humains. Il a dit quelque chose. Et j'étais au niveau de la DSR la dernière fois, j'ai compris que il y a des fois de la clémence et pas qui n'est pas lié à leur mission, mais ils sont à un moment donné obligés. Pas toutes les fois. Mais là où je recommande qu'ils sévissent, c'est au niveau des permis de conduire. Au niveau des tricycles, vous n'avez pas le permis, vous ne conduisez pas. Parce qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Les gens viennent de Colocopé en même temps, excusez-moi, les gens de Colocopé, ils descendent à Lomé. Les gens viennent de Tchantanga, ils descendent à Lomé. Ils ne connaissent même pas le commissaire central de la ville de Lomé. Ils ne connaissent pas l'article, mais. Et donc ces gens-là, on le fait comment? Il faut qu'ils aient un permis. Et que tout conducteur de véhicule. Un permis B. Messieurs les agents de la DSR, vous ne trouvez pas un permis sur la personne, dites-lui quelque chose.
D'accord.
Comme vous l'avez l'habitude de faire.
Okay.
J'ai un sujet important.
Oui, mais rapidement.
Je profite. Tu sais, vous savez ce qu'on appelle la mugette?
Oui, oui.
La mugette, c'est quoi? C'est la mutuelle générale des enseignants.
Des enseignants.
Qui a été créée par décret en 1975, qui regroupait les enseignants. Les enseignants cotisaient pour leurs vieux jours. La mutuelle a déposé le bilan, je crois, il y a 3 ans. Et les biens sont en train d'être vendus. Maintenant, la polémique, certains sont entrés en possession de leurs dus, mais il y en a encore plein. Il y a l'hôtel La Mirette, qui est le bien phare de cette mutuelle-là, des enseignants, surtout des retraités. Beaucoup sont déjà morts, et beaucoup meurent encore, alors qu'il y a 200 000 francs, ou 300 000 francs, ou il y a 120 000 francs à prendre. Certains 80 000 francs à prendre. C'est cher, c'est leur fortune. Il faut leur remettre. Mais on ne peut pas aussi accuser le comité de liquidation tout de suite. Mais ils ont fait preuve de laxisme dans la cession des biens. Parce que cette histoire a duré longtemps. Plusieurs sont rentrés, me sont rentrés en ligne. J'ai dit, moi, mon papa était enseignant. C'est mes parents, ça. Il faut qu'on les aide. Pour ceux qui sont au niveau du comité de liquidation, là. C'est-à-dire qu'il y a une spéculation. Le père fonctionne. On a comme l'impression que le père fonctionne. Et qu'on a encore du profit. Mais on ne dit pas la vérité aux mutualistes. Le pire, c'est que le panneau de signalisation qui indique qu'on est en train de vendre l'hôtel a été enlevé. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui veut dire qu'il y a une spéculation. Il suffit que toi et moi, on soit dans le comité ou on soit ailleurs, on a des parents qui ont 30 millions qui les vendent alors que le bâtiment peut coûter 100 millions. On s'entend, on liquide le bâtiment là. Je ne dis pas que c'est ce qui est fait, mais c'est ce que soupçonnent les mutualistes. Ils veulent qu'on le vende à un bon prix, à son prix réel, pour qu'ils puissent entrer dans leurs droits. Donc aujourd'hui, je lance une alerte. Oui. Que, même à tout au volet, je suis pas enseignant, je vais retraiter, que la Mirette qui a son hôtel est en train d'être vendu. Si vous avez de l'argent, approchez ceux qui sont là pour que les enseignants ne pas si tôt.
D'accord, merci Ambrasse. Et déjà, la une de votre journal, je voudrais qu'on termine avec ce sujet que vous avez évoqué. Hein. Vous vous intéressez à la guerre entre l'Israël et le Liban. Et vous écrivez Liban, bombardement, missiles, tir à l'Amloud. 2500 travailleuses togolaises coincées. Et ça veut dire que ça doit nous intéresser, puisque déjà, des togolaises sont coincées là.
Oui, vous savez que nos sœurs, souvent, quand ils vont dans les pays du Golfe, c'est pour faire ce qu'on appelle très communément, c'est pour devenir des bonnes, c'est-à-dire devenir des travailleuses domestiques. Mais depuis quelques jours, vous savez, le problème qui se passe entre le Liban et l'Israël, avec justement l'assassinat du patron du Hezbollah, Hassan Nasrallah, mais il y a beaucoup de pays qui organisent le rapatriement de leurs ressortissants. Vous avez eu de plusieurs pays européens, du Moyen-Orient, même d'Afrique, parce que le Kenya a rapatrié ses ressortissants, la RD Congo l'a également fait. Vous avez des pays qui réagissent également pour interdire à leurs ressortissants, à leurs citoyens, de pouvoir se rendre dans ces pays comme le Bénin, par exemple, qui a demandé qui a interdit tout voyage à destination du Liban. Et puis, il y a des plans de rapatriement en cours, mais au niveau du Togo, rien. Silence radio, aucune réaction, pas de communiqué, aucun mot, rien. Alors que, selon le ministère du Travail du Liban, 2500 travailleuses domestiques travaillent sur place.
Ils sont des Togolaises.
Ce sont des Togolaises. Et selon la présidente de la communauté togolaise au Liban, que nous avons interrogée, mais c'est la débandade aujourd'hui, parce que les personnes, les Togolaises, les consoeurs, les 2500, là, sans compter les travailleuses togolaises qui sont dans d'autres filières d'activité. Enfin, qui sont dans d'autres domaines d'activité, je voulais dire. Sans compter les hommes, qui sont des ressortissants, des compatriotes aussi, qui sont dans d'autres filets. Ça, c'est juste le cas de travailleurs domestiques. Elles sont 2500. Parce que c'est le travail le plus prisé où il y a forte demande au niveau des Africaines. Donc, actuellement, il y a 2500. Et elles font comment? Chaque jour, elles sont en déplacement. On est dans telle ville aujourd'hui, on est dans telle ville demain, on est dans. L'aéroport de Beyrouth même ne fonctionne plus. Mais des gens trouvent le moyen de rapatrier leurs ressortissants. Les États s'organisent. Mais au niveau du Togo, silence radio. Et donc, le papier aujourd'hui, c'est pour faire quoi? C'est pour lancer un appel pressant au ministère des Affaires étrangères pour qu'il s'occupe de cette situation. On doit avoir l'ambassade en question, concernée, pour organiser un rapatriement retour volontaire. Parce que ceux qui veulent rentrer, permettez-leur quand même de rentrer et de retrouver leur famille. Vous allez voir Beyrouth avec ce qu'on voit juste à la télé. Ce que vous voyez à la télé, là, vous êtes devant France 24, vous voyez des obus, de mortiers, vous avez des bombes qui sont larguées et tout ça, mais il y a des gens qui sont là, qui travaillent, des compatriotes qui sont là, mais qu'on se taise comme si, on n'avait aucun ressortissant là, qu'on n'avait pas de Togolais, qu'on n'avait personne, mais c'est grave. Et donc, le papier de ce matin, c'est pour justement, non seulement parler de la situation, présenter les chiffres, mais interpeller le ministère des Affaires étrangères pour qu'une solution diligente soit trouvée à ces compatriotes qui se retrouvent de l'autre côté Et nous sommes revenus aussi sur le communiqué du mouvement Martin Luther King qui a été publié lundi dernier,
tout à fait.
Qui a insisté sur cela, pour qu'un plaidoyer soit fait de façon diligente pour que, justement, les nôtres puissent rentrer chez eux.
D'accord. Nous allons en arrêter là, chers confrères, et donner aussi la parole à nos auditeurs, puisque c'est le principe de l'émission. Il est midi, passé de 5 minutes. Nous allons donner la parole à nos auditeurs, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est nos deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir et participer à cette émission. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Canal FM.
Oui, bien sûr, c'est Canal FM. Votre nom, c'est...
C'est Moupé de Toglekopé.
Monsieur Moupé de Toglekopé, allez-y.
Comment vous allez?
Ça va pas la grâce, c'est chez vous.
Vous savez, vous venez de intervenir encore la DSR. Hein? Ce qui se passe avec les véhicules, les tricycles dans la rue, vous savez, chacun dans son coin, si vraiment on laissait les gens de faire leur travail, dans chacun dans sa spécialité, ça allait vraiment marcher dans ce pays. Vous n'arrêtez pas la DSR. C'est moi qui vous appelle les gens, c'est moi qui ouvre la DSR là. Avec le général Yark. Tu arrêtes quelqu'un, on te tend le téléphone, c'est un général, c'est un ministre, pourquoi tu as affaire à ce dernier, que de laisser là-bas, tu sais pourquoi tu le prends, tout ça là. Mes amis, ça. On a formé des gens pour leur spécialité. Quand tu constates un truc comme vous parlez, même truc, que tu vas transporter sur le
conteneur.
Tu arrêtes ce dernier, on t'appelle que pourquoi tu as arrêté celui-là, que de lui laisser passer là-bas, pour tout ça là, vous savez, c'est ça. Rien ne peut marcher quand quelqu'un veut travailler dans son coin, dans sa spécialité, on l'interrompt, c'est comme ça. Et on lui dit à se laisser aller. Ah, si vraiment, on veut vraiment respecter les lois votées par l'Assemblée, ça va marcher. Merci
beaucoup, monsieur Moupé, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Nous avons discuté de beaucoup de sujets. Vous pouvez choisir ces sujets et réagir sur ces sujets. Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment vous allez?
Natima.
Oui, Natima. Allez-y.
Le ministère qui vient de dire là. Mais j'ai félicité l'homme et Abraham, ce qu'ils ont dit, c'est bon. Mais le tout, c'est comme ça. Un général va vous appeler. Mais moi, je voudrais qu'on étudie l'atmosphère d'abord. Les gens ont les permis, regardez comment on conduit les voitures. Le tout. Allez au Ghana, vous allez voir comment on conduit. Les piétons, c'est toujours la route. Je crois que nous sommes d'accord. Mais au tout, les piétons sont considérés comme un chien. Alors que nous tous, au même moment, on peut devenir piétons. Mais ce que moi je dis, si on ne veut pas que le Togo soit un désert ou bien entre dans autre chose, parce que les gens demandent, ils sont nombreux. Vous voyez, quand on a fait les casques, est-ce qu'on a pu maîtriser Kara? On n'a pas pu maîtriser Kara. Vous voyez, et l'intérieur du pays, c'est difficile. Aujourd'hui, notre pays traverse une crise. Les gens n'arrivent pas à manger. Mais si ce qu'on pouvait leur dire, vous savez, votre vie là, à l'île du chemin, c'est à respecter tout ça là. Il n'a qu'à faire le coup, c'est bon. Mais allons doucement. Sinon, ça va se gâter dans ce pays. Maintenant, je vais parler d'affaires d'inondation. Tout ce qui se passe, l'État doit prendre des précautions. C'est un signal fort que ça donne. On pense qu'on est protégé, non? Les gens qui sont dans les zones inondables, l'État doit commencer par les dire d'évacuer. On ne sait pas. On va perdre les gens. On ne sait pas. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il faut diriger les gens, il faut dire les gens comme Abouan l'a dit. Il faut acheter des terrains en saison de pluie. Aller sur les hauteurs, là où c'est haut, pour acheter des terrains et construire, pour ne pas perdre de l'argent comme ça gratuitement. Vous voyez, non? Donc, pour ce qui se passe en Liban, c'est ça. Le gouvernement doit faire un effort pour communiquer, pour même s'ils veulent envoyer une voiture, comment, pour Parce que ces femmes-là, ces services-là, elles rendent service à la nation. L'argent qu'elles envoient pour la famille, ça fait quelque chose. Puisqu'elles n'ont pas trouvé du travail ici. Elles sont là-bas, là, elles envoient l'argent. Donc, merci et bonne émission.
Merci beaucoup, M. Natima, pour votre intervention. 90 86 35 35, 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Et vous pouvez vous prononcer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
Oui, la pluie menace un peu, là.
Effectivement.
Oui, je remercie M. Moukou au passage. En écoutant, ce n'est pas n'importe qui. Nous, on ne pouvait pas dire ça. C'est les gens comme ça qui doivent dénoncer. C'est pourquoi je vous disais que même l'armée est fatiguée. Même les gens qui piquaient les Américains devant, on frappait les gens pendant 30 minutes. Ils vont faire quoi? Ils ne peuvent rien. C'est à la retraite comme ça, mais les gens parlent. Oui. Donc, ça ne va pas. Ce qui est réservé aux Togolais, actuellement, ils ont tout perdu, l'espoir est perdu, ils n'attendent que le stress et l'AVC. Il faut voir comment les autres sont inondés. Bon, disons, en fait, on va faire un peu la géologie du Togo là. Le dernier retranchement de la mer.
Ah, mais il est parti. Monsieur Nyamavo, merci pour votre intervention, mais vous pouvez rentrer ou revenir pour terminer votre intervention. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va par la grâce. Et vous?
Ça va aussi, par la grâce de Dieu.
D'accord. Je salue Ambroise et les autres confrères qui sont là-bas.
Le nom c'est?
C'est Patrick.
Ah, Patrick.
Oui.
D'accord, allez-y.
Alors, je vous signale aussi que le second numéro ne marche pas. Hein.
Ah bon?
Le 35-35, là, c'est suspendu momentanément.
Ah bon?
Oui, on a essayé ça. Vous pouvez l'essayer. Quand vous appelez, ça ne passe pas.
D'accord. Il y a Michel de l'autre côté qui va essayer de régler le problème. Alors, vous pouvez y aller maintenant,
d'accord.
Patrick.
Le monsieur de la SNB est toujours avec vous?
Oui, il est toujours là.
D'accord. J'ai apprécié son développement. Mais de lui... Moi, je vais poser une question. Les trois éléments qu'il a cités qui entrent dans la fabrication de la bière, là, à son âme et conscience, et s'il nous dit la vérité que dans leur production, ils n'utilisent pas le riz, ça c'est la première interrogation. Secondo, si tel est le cas, si le riz n'intervient pas dans la production de la bière de SNB, pourquoi la brasserie, la BB ne peut pas faire autant? Parce que le riz est à la base de beaucoup de maladies. Hein? La bière que nous consommons présentement est à la base de la glycémie pour la population. Quand vous consommez trop de bière, vous avez 99% de chances que la glycémie vous atteigne. Ça, c'est un de deux. Si réellement on ne fabrique pas la bière avec le riz, il ne va pas se poser le problème de riz avarié de la dernière fois. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a plusieurs avantages qui font qu'en Russie, on fabrique la bière sans le riz. Bon. En ce qui concerne la question de permis de conduire, chaque fois qu'on évoque ce problème, il y a aussi une interrogatoire qui m'inquiète. Alors, si quelqu'un qui a le permis B, est-ce nécessaire qu'il passe encore un permis de moto, de A, voire de permis A, si tu sais conduire un véhicule, tu as le permis B. Tu as la chance, ou bien est-ce que c'est obligé que tu passes encore un permis A? Et pour finir, votre ami vient de faire aussi un développement vraiment très bien concernant les filles qui travaillent au Liban.
Vous voulez parler de l'homme à Tissoubé?
De l'homme. Bon, à ce niveau aussi, j'aimerais comprendre. C'est vrai, quand il y a problème, on doit quand même trouver une solution avant de creuser pour voir comment est-ce que ça se passe. Toutes ces filles, bien, bon, tous les Togolais qui sont là-bas présentement, comment sont-ils partis? Puisque on sait que pour voyager, il y a une ambassade, il y a le ministère de la coopération, je veux parler du ministère de Doucy, tout ça là, comment sont-ils partis? Parce que, est-ce qu'ils sont vraiment à résister? Est-ce qu'on sait qu'il y a tel effectif dans tel pays? C'est ça aussi. Parce que les gens passent par le Bénin, passent par le Ghana, et après, ils se retrouvent ailleurs. Comment le Togo saura que de telle année ou telle année, voilà tel Togolais ou bien tel individu qui ont voyagé?
D'accord.
S'il y a problème, on commence à trouver. Et organiser leur rapatriement.
Ok. Ça. Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce jeudi 90 86 35 35 91 36 315. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien.
C'est Johannes.
Oui.
Allez-y.
Un responsable de la SMB qui est avec vous, c'est ça?
Oui, responsable marketing opérationnel.
D'accord. Moi, la seule question que j'aimerais savoir, est-ce qu'ils ne voudraient pas, bien nous enlever ce qu'ils nous ont déposé au Carrefour GTA?
D'accord.
Est-ce qu'ils ne voudraient pas bien faire ça pour le notre bien à tous? Est-ce qu'ils sont heureux eux-mêmes d'avoir déposé ça là, à ce Carrefour-là?
Mais ça vous dérange, Johannes?
Ça me dérange. Et je pense que vous-même, vous les journalistes, vous en avez parlé largement de cela. Donc, aujourd'hui, vous avez la chance de l'avoir avec vous, avec diligence, parce que ce qu'ils nous ont déposé là-bas, ce n'est pas bien pour l'image de la ville. Ils cherchent un autre point. C'est du marketing. Mais franchement, en tout cas, peut-être le temps serait à ceux qui leur ont donné l'autorisation de le faire. Mais si eux-mêmes sont contents de cela, là, c'est pas bien quand même.
D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Johannes. Vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce jeudi. Chers confrères, nous revenons en studio pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Mais je donne la parole à Diri Katanga, pour répondre à cette question de Johannes et aussi de notre ami Patrick. Diri?
Alors, pour parler de... Je dis d'abord merci à Johannes qui passe tout le temps au Carrefour GTA ou au Carrefour Jama et qui regarde donc qui prend le plaisir de regarder la bouteille. Nous faisons de la communication et donc nous avons mis donc cette bouteille là-bas pour montrer aux gens que voilà, il y a une bouteille, il y a la Jama qui est une bière togolaise faite par des Togolais et c'est une boisson togolaise donc et voilà, c'est pour faire connaître donc cette boisson là qui est née il y a juste 4 ans hein, on est très nouveau. On est bambins hein, dans l'escarcelle du monde brassicole. Et voilà, c'est pour cela que nous avons fait de la publicité. Bon, ce qu'il dit, on prend acte et on verra bien. Par rapport à notre ami Patrick, je vais lui dire une petite anecdote. Vous vous rappelez, il y a quelques années, au moment où le corona faisait fureur et tout ça, nous avons nos amis ou nos parents boulangers qui nous disaient qu'on peut prendre une partie de la farine de manioc pour faire du pain.
Du pain, oui.
Je peux vous dire que ce n'est pas possible à 100% de faire avec la farine du manioc, mais utiliser un peu de la farine de blé, et aussi beaucoup, parce que la farine de blé coûtait très cher. C'est la même chose, ou plus ou moins même la même chose chez nous. Le malt coûte extrêmement cher. Vraiment, avec la crise d'Ukraine, le malt coûte extrêmement cher. Alors, pour pouvoir utiliser, nous, on utilise exclusivement le malt, le houblon. L'eau blanche, c'est une plante, le malt, c'est un céréale. Et l'eau, c'est les trois ingrédients que nous utilisons à la SNB pour fabriquer nos bières. Mais les autres, pour baisser un peu les coûts, je dis le nom de personne, pour baisser le coût, utilisent d'autres céréales en plus du malt. Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas le malt. Ils utilisent le malt en petite quantité, d'autres céréales en beaucoup de quantité, en grosse quantité, pour donc fabriquer leur breuvage. Vous voyez un peu. C'est simplement, je voudrais comprendre qui pourra, c'est un peu ça. Nous utilisons exclusivement le malt. Si Patrick le veut, qu'il vous contacte, qu'il vous laisse son numéro, il pourra venir visiter l'usine ou l'unité de fabrication. Il verra le malt, le houblon et l'eau avec lesquels nous fabriquons donc nos bières.
D'accord, et voilà que c'est compris. Et là
j'ai pas de réponse par rapport aux auditeurs. Merci à tous ceux qui ont appelé. Mais il y a une situation, excusez-moi, qui se développe dans les... Vous savez, aujourd'hui, on a une crise de l'emploi au Togo. Et le problème est sérieux. Et ceux qui sont aujourd'hui à la demande, à la recherche d'emploi, voilà, je vais dire ça comme ça, et viennent aujourd'hui se greffer sur des gens qui sont menacés de licenciement dans les structures. Le problème se pose aujourd'hui dans beaucoup de banques. Vous avez constaté que dans les banques aujourd'hui, les personnes qu'on recrute, c'est des jeunes qui n'ont pas fini de boire du lait. Je suis désolé, mais je le dis comme ça. Vous avez des petits qui font un bac plus 2, qui sont recrutés dans des agences, et puis qui vous gèrent des dossiers, ils n'ont pas fini, ils sont nerveux tout le temps. Aucune expérience dans les banques. Et aujourd'hui, il y a des banques qui ont des plans de licenciement qui sont dans les tiroirs. Ce que je dis, c'est sérieux. Et ces banques se sont passées le mot au niveau de l'agence professionnelle des banques et établissements financiers. Si les gens m'écoutent, il ne faut pas créer des problèmes plus qu'il y en a actuellement. Parce que actuellement, les gens sont tendus dans le pays. Et la situation sociale est précaire. Sincèrement, s'il y a des choses comme ça que les gens mijotent, il faut que, j'appelle d'abord le Simbank, le syndicat des banques. Et j'en appelle aussi justement au ministre de l'économie et des finances qui, depuis qu'il est là, a pris le taureau par les cornes en ce qui concerne l'assainissement de beaucoup de situations. Il faut véritablement qu'au niveau du Conseil national des crédits, on puisse lancer l'observatoire de la qualité des services financiers. C'est d'abord très important. On en parle depuis un moment. Il faut passer justement de la parole à l'acte et discuter avec et le Sandbank et la PBF pour trouver des solutions à ce plan de licenciement qui se trouve dans les tiroirs de plusieurs banques. Parce que vous voyez, dans les banques, on remplace déjà ceux qui sont aux affaires par de plus jeunes. Des gens qui ont 20 ans, 25 ans, qui sont là, qui ont des salaires de je ne sais combien par mois, pendant que les DG sont à 20 millions par mois. Pardon.
D'accord. Merci. Merci beaucoup, Elon. Ambrose ?
Oui, je crois que je voudrais abonder dans le sujet de l'homme, sur le sujet de l'homme, en disant que les banques, eux-mêmes, ils savent qu'ils ont des problèmes. Parce que si certaines banques n'arrivent plus à avoir de clients, c'est par rapport au comportement de leur gestionnaire de compte. Il faudrait qu'ils apprennent aujourd'hui. Moi, ça fait longtemps que je ne suis plus dans une banque. Je peux faire une microfinance qui a une connexion. Je suis sérieux. Qui a une connexion entre la microfinance et la banque. Ça aussi, ça se fait.
Oui.
Le pire encore, c'est que les Togolais qui sont à l'extérieur cherchent à ouvrir un compte aussi facilement. Pendant un mois, on n'arrive pas à ouvrir un compte. Parce qu'il y a des Togolais qui sont en France, aux États-Unis, qui veulent ouvrir un compte dans une banque. Même dans une microfinance. Alors, la procédure, elle est compliquée. C'est-à-dire que les voies autorisées vont vous le dire, mais ce que j'ai constaté, c'est que finalement, ces compatriotes viennent nous déranger. Mais est-ce que vous avez autre possibilité à nous brancher une banque pour qu'on puisse ouvrir un compte ? Pas si c'est des banques ici. Mais ces banques-là se connaissent. Les banques ont encore changé de comportement à travers le gestionnaire de compte, à travers le truc de portefeuille, comment on les appelle ? Ceux qui gèrent les portefeuilles des clients. Parce que c'est compliqué pour un étranger, un Togolais qui est un étranger, d'ouvrir un compte, alors qu'il y a des familles ici, qu'on doit verser de l'argent, qu'on doit envoyer de l'argent au moins chaque mois. C'est bien ça. Et donc, il m'a soulevé cet aspect-là. Mais pour finir, moi, les inondations sont une réalité chez nous. Je dis qu'il y a encore peut-être deux grands puits devant nous. Je le dis, je ne suis pas Dieu.
Et il faut prendre des précautions.
Mais il faut que ceux qui sont dans les zones inondables puissent prendre des précautions, ça c'est à leur niveau. Maintenant, pour que l'autorité, elle a dit quelque chose, ceux qui circulent là, l'agence nationale de quoi là.
Protection civile.
C'est-à-dire que vous ne devez pas être une agence juste de circuler, de sillonner et de dire merci et partir. Ils doivent avoir un budget.
D'accord.
Ensemble avec le ministère des Travaux publics, pour régler les problèmes qui sont urgents.
Mais c'est pas une base de
pédagogie. Merci Ambrose Ponzo d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur du journal de Guadian. Hélène Matissoubé, merci d'être passé aussi dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Derek Katanga, merci à toi aussi d'être passé dans cette émission. Nous sommes à la fin. Merci à vous tous qui nous avez appelés, vous qui avez intervenu alors dans cette émission. Merci à vous. Merci à Michel Tomiga qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dacoutin a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.